Donc on a déjà un peu dit que Hanouka, ça veut dire inauguration. C'est une deuxième inauguration pour le deuxième Beth Amikdash, puisque il a bien entendu été inauguré lorsque ils l'ont construit. Et maintenant, comme à peu près au milieu de sa durée, qui est toujours à peu près 400 ans, un peu plus que 400 ans, à peu près au milieu, il y a eu problème, cette guerre. C'est une guerre qui a duré longtemps. C'est pas du tout de même qu'on sait pas toujours que l'histoire de Pourim a pris plusieurs années aussi. Ici, c'est une longue guerre. Et cette guerre-là est une guerre qui se passe, comme on dit, contre les Grecs, mais il faut entendre par grec, on entend par, c'est en fait une guerre contre la, faut dire la civilisation grecque, c'est-à-dire contre ce qui s'est passé, c'est que quand Alexandre a conquis, il a battu les Perses. Et il a conquis son empire. Bon, il n'a pas vécu très longtemps. Et quand il est mort, ce sont ses généraux qui se sont partagés son empire. Mais la valeur, si vous voulez, les valeurs, les idées des Grecs sont devenues des modèles qu'ils sont restés jusqu'à aujourd'hui. Et les Bnei Israël, qui étaient en Eretz Israël, ce qui est en fait une toute petite partie du peuple, en vérité, puisque ceux qui sont en Eretz Israël à ce moment-là, ce sont ceux qui ont profité de la permission donnée par les Perses de retourner en Eretz Israël et de reconstruire le Beth Amikdash. Ensuite, quand les Perses ont perdu la guerre contre Alexandre, les Grecs se sont installés partout, et en particulier en Eretz Israël. Et les valeurs grecques ont envahi. Les Grecs étaient une civilisation dominante dans à peu près tous les domaines. Et en particulier en Eretz Israël, la plupart des gens étaient complètement acquis aux idées grecques. Pas seulement l'establishment, mais même les Kohanim étaient acquis aux idées grecques. Tout le monde se comportait comme des Grecs. Et ils ont même transformé le Beth Amikdash en un temple grec. Tout était à l'avenant. Tout était de cette sorte, en fait, qui était donc cette idée de. Ben voilà, il faut être grec, quoi. Il faut faire comme les Grecs, y compris donc dans le Beth Amikdash. Ça, ce sont les, c'est la situation à ce moment-là. Et comme on le sait, comme on le dit dans l'Anissim, il y a une toute petite poignée, une famille, quoi. Une famille qui s'est révoltée. La révolte, elle a été déclenchée par une fille de la famille. Parmi les décrets des Grecs, il y avait toutes sortes de décrets dont on ne comprend pas du tout pourquoi ils les ont pris. Un décret qui ensuite a été repris un peu dans toutes sortes de civilisations qui dominaient, c'était un droit de cuissage, c'est-à-dire que le gouverneur venait violer toutes les jeunes femmes au moment de leur mariage. Il arrivait au jour du mariage et il violait la kala. Et une fille de la famille qui allait se marier le lendemain, le jour qui allait suivre, elle s'est. Ils ont fait un repas concernant. Avant le mariage, quoi. Et elle a grimpé sur la table, elle s'est dénudée, ou forcément, je sais pas. Et quand les gens ont dit, mais c'est un scandale, ce que tu fais, alors elle leur a dit, mais vous êtes scandalisés par ça, vous n'êtes pas scandalisés par le fait que demain, je vais me faire violer par le gouverneur. Et donc, ça leur fait un espèce d'électrochoc, et c'est parti. C'est parti avec la famille, quoi. Alors, la famille s'est mise à. La famille, c'est la famille du Cohen, d'un Cohen Gadol, qui n'était pas le Cohen Gadol qui était en service, parce que le Cohen Gadol qui était en service, il s'appelait Jason, et il était acquis aux idées grecques. Ils ont commencé une guerre. Et cette guerre, elle est décrite dans l'Anissim. Ça s'appelle Mehatim, très peu, un tout petit groupe de gens, et en face, il y avait Rabim. C'est-à-dire, vous aviez une famille de gens qui n'étaient probablement pas, je ne pense pas que les Kohanim en question étaient des experts dans l'art de la guerre, d'accord, puisque les Kohanim n'allaient a priori pas faire la guerre, et ils se sont affrontés, ils ont affronté une armée. L'armée, et au départ, en tout cas, ils n'ont pas l'appui de la population du tout. La population, elle est tout à fait acquise aux idées grecques. Alors, probablement que les gens ne sont pas enchantés de cette histoire de viol parce que, bon, ça, leurs filles aussi sont violées quand elles se marient. Mais bon, non, les gens, je sais pas, on n'en faisait pas une grosse affaire. Oh, okay, viol, parce que. À partir du moment où ça se fait à tout le monde. Bon. Et donc, la guerre, elle a commencé, elle a duré très longtemps. Les enfants de Matithiaou, le Kohen Gadol, qu'on appelle les Maccabim, c'est une grande partie d'entre eux, la totalité, finalement, ils sont tous morts. Ils se sont battus comme des lions, mais ils sont morts. Presque tous. Et à la fin de cette guerre, bon, ils ont gagné, donc ils ont quand même dû gagner un peu plus de partisans. Ils n'ont quand même pas fait la guerre 5 ou 6 contre tout le monde. Mais en fait, ils ont gagné la guerre, mais il restait beaucoup de valeurs, de gens qui étaient acquis aux valeurs grecques, et bien que le Rambam dise que ce qui s'est passé à la fin de la guerre, ils ont rétabli le fonctionnement de la société juive, y compris avec un roi, et il fallait nommer un roi. Mais probablement que tous les gens qui étaient candidats à être roi étaient dans l'establishment, et l'establishment, il était entièrement acquis aux idées grecques. Et donc, on ne pouvait pas prendre un de ces gens-là comme roi. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont pris un roi parmi eux. Comme dit Rambam, ils ont choisi un roi mina Kohanim, parmi les Kohanim. Alors, vous savez probablement que c'est interdit. Bon, il y a une séparation des pouvoirs et les Kohanim n'ont pas le droit d'être roi. A priori, la royauté, elle est réservée à la tribu de Yehuda. Et donc, en particulier, les Kohanim n'ont pas le droit d'être rois et les Chachamim n'étaient pas contents de ce qu'ils ont fait. Ils ne voulaient pas qu'ils le fassent, mais ils l'ont fait quand même. Ils ont nommé un roi. Alors, le Rambam, il dit, bon, comme il présente les choses comme c'est vraiment, vraiment, vraiment positif, que pendant 200 ans, on a eu une royauté juive sur la Judée, en fait. Mais en réalité, c'est une espèce de victoire un peu à la Pyrrhus parce que petit à petit, le pouvoir est devenu grec. Le pouvoir est devenu, ils ont fréquenté des Grecs, etc. Et donc, les rois eux-mêmes sont devenus grecs. Et ensuite, comme vous savez, les Grecs ont été battus par les Romains. Et donc, le pouvoir est devenu romain. Mais romain, ça voulait dire, c'était Rome. Mais il y avait beaucoup de choses de la société grecque qui restaient, comme on le sait, comme c'était partout. Les Romains n'ont pas, ils n'avaient pas une civilisation suffisamment forte pour faire le poids contre celle des Grecs. Ils ont gagné, bien entendu, la guerre. Les Romains étaient meilleurs. Mais les valeurs grecques n'ont pas disparu pour autant. On a déjà tué une, mais une nouvelle. Mais il y a un problème de contact. Voilà. La prise, elle est dangereuse. Mais par contre, je ne sais pas combien de temps je vais durer là. Alors, ils ont été influencés et finalement, vous savez comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé en une lutte entre deux héritiers de la royauté, une guerre entre eux, et l'un des deux a appelé ses petits copains romains. Il avait fréquenté parce que l'establishment était éduqué à Rome, des valeurs gréco-romaines. Et les Romains sont venus et ils ont repris le pouvoir et ils ont installé celui qui les avait appelés, mais évidemment sous domination romaine. Et cette domination romaine-là, elle n'était pas très gênante. Parce que les Romains, ils n'avaient pas tellement d'exigences du point de vue religieux, si vous voulez. Et donc, ça se passait relativement bien. Et ça a mal tourné seulement après la révolte de Bar Corba, à l'époque de Bar Corba, c'est-à-dire bien longtemps après. Il y a eu cette révolte et à ce moment-là, les Romains sont devenus insupportables. Les Romains ont à ce moment-là pris toutes sortes de décisions. Voilà. Une de moins. Ils ont pris toutes sortes de décisions anti-juives, quoi, si vous voulez, anti-Torah, etc. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont massacré. Mais quand on dit que c'est eux qui ont massacré, celui qui a massacré quasiment tous les Hachamim, sauf un auquel il a crevé les yeux, c'est Yanaï, c'est Alexandre Jannet en français. C'était un des rois, justement descendant des Hachmonaïm, je veux dire. Et bon. Donc ça c'est et ça a amené donc il y avait auparavant il y a eu donc la destruction du Beth Amikdash. Et la révolte de Bétard, c'est Bar Corba, et le désastre que ça a représenté, et effectivement un exil encore plus fort et des conditions de vie pour les Bnei Israël insupportables. OK. Maintenant, Hanouka, ça se passe avant les Romains, ça se passe sous les Grecs, sous la domination grecque. Alors, comme je vous ai dit, il y a une minorité de gens qui font la guerre contre les Grecs, mais en fait, c'est une guerre civile, en fait. Parce que, étant donné que la plupart des gens, des Juifs qui vivaient en Eretz Israël étaient acquis aussi des Grecs, la guerre était une guerre contre ces idées grecques, et donc une guerre civile. La documentation sur Hanouka, elle est très faible. Par opposition à ce qu'on a sur Purim, Sur Pourim, on a une Masechet, un volume de la Gemara entier, consacré à Pourim. Voilà. Essentiellement à la Megillah. Sur Hanouka, on n'a quasiment rien. Le statut de Hanouka et le statut de Pourim sont complètement différents parce que le miracle qui a eu lieu à Pourim, c'est-à-dire le fait que cette solution finale, elle n'a pas, s'est pas réalisée, c'est zéro mort de notre côté. Ça, c'est un est que, dont Rahamam disent que c'est un est qu'on avait le droit d'écrire. On avait le droit d'en faire un texte, et ce texte, il a été incorporé au canon biblique. Le miracle de Hanouka, qui a lieu de quelques centaines d'années après, celui-là, on n'avait pas le droit de l'écrire. Quand on dit pas le droit de l'écrire, ça veut dire que ça peut pas, ce qui s'est passé à Hanouka, d'une certaine manière, ça peut pas vraiment se dire en mots. Sinon, on pourrait l'écrire. On peut pas le dire vraiment en mots. C'est plutôt en gestes, en actions. Et il faut entendre les choses sans qu'elles soient dites, pas parce qu'on veut pas les dire, mais parce qu'on peut pas les dire. Donc, il se passe quelque chose. Si on veut vraiment comprendre ce qui s'est passé à Hanouka, il faut être capable de décrypter, c'est-à-dire de ressentir les choses sans passer par les mots. Parce qu'on ne peut pas vraiment communiquer ce qui s'est passé avec des mots. Et du coup, comme je dis, à part ça, est-ce que c'est pour ça que ça ne s'est pas dit, que pour ça qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'écriture? On a un grand document qui date de l'époque, qui est le livre des Maccabées. Le millième du Maccabim, il n'a pas été intégré au canon biblique. Il y a quatre volumes, dont les deux derniers, le 3 et le 4, sont pas très intéressants pour nous. Par contre, les deux premiers sont intéressants. Deux premiers sont intéressants. Alors, ils ont été écrits en grec. Et le fait que cela ait été écrit en grec, ça permet que là, on a une marloquette en vérité. Quand on parle des Maccabim, on ne sait pas vraiment comment il faut écrire Maccabi. Parce que la caisse d'assurance en Eretz Israël s'appelle Maccabi. On écrit Maccabi, Mem, Kaf, Bet, Yud. Et Maccabi, sous cette écriture-là, c'est écrit, les quatre lettres de Maccabi sont les initiales de Mi Chamorah Baelim Hashem. Mais en vérité, Maccabi peut aussi s'écrire avec un Kouf. Même Kouf Bet Yud. Et le même Kouf Bet Yud, ça fait référence à une maquevette, c'est-à-dire à un marteau. Pas de faucille, hein. Mais c'est un marteau pour montrer que voilà, c'est le marteau de la guerre en fait. C'est l'emblème en quelque sorte des Maccabées. Alors, on peut pas savoir, étant donné que le document qu'on a, il est écrit en grec et qu'en grec il n'y a pas de différence entre le kaf et le kouf, ça donne un cas de manière. D'accord. Donc on sait pas. Il y a une marloquette, effectivement, comment on doit écrire Maccabée. Je crois que le CAF a gagné, mais bon, je sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans ce Sefer des Maccabim? C'est écrit dans le premier volume. C'est un volume qui est consacré essentiellement au récit de la guerre. La guerre, elle a duré, il y a eu beaucoup, beaucoup de batailles, et dans le Maccabim, volume 1, on décrit à quasiment toutes les batailles, dans un luxe de détails. Les batailles qui étaient là, quel fils de Matithiaou était dans cette bataille-là, où elle a eu lieu, etc. Et là, ce sefer-là, il est consacré, si vous voulez, à parler de l'héroïsme des Israël qui se sont battus alors qu'ils étaient cette fameuse minorité contre la majorité. Donc on parle de l'héroïsme des combattants. Dans le deuxième volume, on ne parle pas de ça. Dans le deuxième volume, on parle du martyr. On parle des héros du côté du martyr, en fait. Par exemple, l'histoire de Hannah et de ses sept fils, elle est écrite dans Maccabée 2, pas dans le premier. Y a toujours eu, donc, dans le clan Israël, et ça a continué dans l'histoire juive par la suite, y compris dans l'histoire moderne juive, deux tendances, en fait. Une tendance qui mettait l'accent sur l'héroïsme des soldats et une tendance qui mettait l'accent sur l'héroïsme de ceux qui ont gardé confiance, etc., et qui ont gardé les valeurs, même si la pression était absolument terrible. En Israël, on a fixé deux moments pour, par exemple, pour traiter de la période de 33-45. On a un certain Yom HaZikaron, en fait, et ce jour du souvenir. Mais il y avait eu tout de suite au début, enfin, même avant l'État, il y a toujours eu des gens qui ont reproché aux Juifs d'être allés à l'abattoir, de ne pas s'être battus, etc. En tout cas, jusqu'à la guerre de Kippour, il y avait toujours ce discours. Après, à Kippour, c'est fini, ce discours, il a un peu disparu. Discours. Et donc, par exemple, Yom HaZikaron, il a été fixé d'après la date juive de la révolte du ghetto de Varsovie. Parce que la révolte du ghetto de Varsovie, c'était quelque chose que les sionistes modernes là étaient prêts à soutenir, quoi. Parce que là, c'est les gens qui se sont battus. Bien sûr. Et donc, c'est héroïque, etc. Il y a personne n'en discute qu'il ait fallu se battre et qu'il savait très bien qu'il n'allait pas vaincre l'armée allemande. Et donc, c'est un héroïsme aussi énorme de leur part. Et il y avait de l'autre côté, mais qui était aussi tout à fait d'accord qu'il fallait se battre, il y avait le grand Talmid Chacham qui était dans ce ghetto de Varsovie, Rabbi Nachem Mezemba, qui était un businessman, mais qui connaissait toute la Torah, qui était un des plus grands Talmid Chachamim de l'époque. Et lui, il a été tué dans le ghetto, il n'a pas été emmené, il a été tué durant la révolte. Et donc, les gens ont mis, ils voulaient bien un jour de Zikaron, mais il fallait que ça soit le Zikaron de l'héroïsme des soldats et pas du martyr de ceux qui ont. Parce que y a des gens qui, dans le ghetto, ce sont les Hassidei Gour, par exemple, ils se sont retirés complètement. Ils ont commencé à vivre et à étudier exactement comme si rien n'est, comme s'il se passait rien, quoi. Ils crevaient de faim et tout ça, comme tout le monde, mais ils passaient leur temps à étudier et à prier. Il y en a d'autres aussi, dont probablement Menachem Zemba. Alors, il y a eu les deux choses. Alors, le point commun qu'il y a entre les deux volumes de Maccabim, c'est que ni l'un ni l'autre ne mentionne le miracle de l'huile. Aucune trace du miracle de l'huile.
Les
Ni
deux.
Maccabim 1, ni Maccabim 2. La première trace du miracle de l'huile, elle est dans le prochain document, si vous voulez. Le prochain document, c'est un document qui a été écrit 300 ans après les événements, qui s'appelle Megillat Antiochus. C'est Une Megillah, un peu du style de la Megillat Esther, qui est un rouleau dans lequel il y a un récit de la guerre. Et là-bas, on parle du nes de l'huile. Alors, sur ce nes de l'huile, ce qu'il faut dire, c'est que ce nes, pratiquement personne ne l'a vu. Parce que le nes, il s'est passé avec quoi? Il s'est passé avec la menorah. La menorah, elle était presque dans le Kodesh HaKodashim. Elle était tout proche. Elle était encore. Il y avait pas dans le Kodesh HaKodashim, mais de l'autre côté du rideau, quasiment du Kodesh HaKodashim. Et donc, aucun non-Kohen ne pouvait arriver là-bas. Et même les Kohanim n'allaient là-bas que ceux qui étaient en service, quoi. Donc, il y avait presque personne qui a vu ce nes. Alors même si, en fait, ceux qui l'ont vu l'ont raconté, mais probablement qu'on n'a pas fait, on ne pouvait pas en faire un cas à mesure où il ne faisait pas le poids, ce nes, si on peut parler comme ça, par rapport au nes de la guerre. Le nes de la victoire, c'est un nes gigantesque. C'est ce qu'on dit dans l'Anissim. Dans l'Anissim, il n'y a pas trace non plus. Du nes de l'huile. On dit que les Israélites, ils ont allumé la menorah, ok, ils ont allumé la menorah, mais on ne dit pas du tout avec quelle huile, comment, etc. Simplement, ils ont allumé la menorah comme ils ont apporté des korbanot. Quand on a réinauguré le Beth Amikdash, on l'a fait fonctionner. Maintenant, on peut dire, alors pourquoi tout à coup on s'est mis à Flavius Josèphe aussi raconte, mais beaucoup plus tard, il raconte lui aussi Hanouka avec le nes de Hanouka. Mais on peut aussi comprendre que même si ce nes, à ce moment-là, attendez, je suis en train de... Et même si ce nes est un nes, on comprend bien que à l'époque romaine, si un Romain avait demandé aux Juifs qui allument les nérodes de Hanouka, pourquoi vous allumez, il ne pouvait pas vraiment lui dire, écoute, c'est parce qu'on célèbre la victoire des Hashmonaïm contre les oppresseurs qui vous ont précédé et que vous avez avantageusement remplacé. C'est plus facile de leur dire, effectivement, le parler du nes de l'huile, et comment ça dérange pas les Romains. Donc, bien entendu, il y a des gens qui vont prendre appui sur le fait que dans le livre des Maccabées, on mentionne pas l'huile, le nes de l'huile, pour dire que le nes de l'huile n'a pas existé. Mais bon, on peut pas empêcher les gens de dire ce ils veulent dire. Mais c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec obligatoirement avec la réalité. La réalité, elle est que il y avait probablement deux Nissim, mais qu'il y avait un nes qui était beaucoup plus important à voir, qui impactait tout le monde, quoi, qui était le nes de la guerre. C'est évident qu'aujourd'hui, s'il y avait un nes de l'huile et un nes de la guerre, les gens parleraient du nes de la guerre. On a sauvé les gens et les gens, on a réussi à bouter hors de Israël les ennemis, etc. Bon, bien sûr que tout le monde va parler de ça. Ce nes de l'huile qui se passe donc avec la menorah, il joue un rôle important Parce que à l'inauguration du Mishkan, c'est-à-dire donc du Beth Amigdash portatif, on quitte là, ouais. À cette, dans ce, dans le Mishkan, en vérité, à l'inauguration, tout le monde vient et apporte ses cadeaux. Quoi? Je vous ai dit, tout le monde sait que, à ce moment-là, Aaron s'est aperçu que lui, il n'avait rien apporté au nom de sa tribu. Donc, il était très, très gêné. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit que sa mitzvah à lui, elle est plus grande que la mitzvah des chefs de tribu qui ont amené des cadeaux, qui avaient, tous les cadeaux avaient à voir avec les korbanot, c'est-à-dire avec tout ce qu'on allait offrir dans le fonctionnement du Mishkan. Alors, la question de savoir en quoi est-ce que la mitzvah d'Aaron est plus grande que celle des autres tribus. En fait, celle des autres tribus, l'impact de ce qu'ils ont amené, c'est-à-dire les korbanot, cet impact va cesser dès lors qu'on n'amènera plus de korbanot. Donc, quand on a détruit le Beth Amikdash, il n'y a plus trace de ce qu'ils ont apporté à l'inauguration. Mais quand on détruit le Beth Amikdash, il n'y a plus de menorah non plus. Donc, en quoi est-ce que ce que la mitzvah d'Aaron est plus grande? Alors, ce qu'on a expliqué, c'est que d'une certaine manière, le miracle qui a eu lieu avec la menorah, il permet la continuation d'un allumage, non pas de la menorah du Beth Amikdash, mais de quelque chose qui est fait par référence à l'allumage de la menorah. Quand on fait quelque chose dans la Torah en souvenir de ou en référence, on fait jamais la même chose. On fait quelque chose qui fait penser à, mais jamais la même chose en plus faible ou en etc. avec imparfaitement. On fait quelque chose qui fait penser à l'allumage des Nérot à la porte des maisons, etc. Ça a rien à voir avec l'allumage de la menorah dans le Beth Amikdash, mais ça fait penser à, dans la mesure où elle fait penser à un nes, et ce nes il est passé avec la menorah. Donc, d'une certaine manière, il y a continuation de la mitzvah d'Aaron. Et comme l'allumage de Hanouka est un allumage qui va durer tout le temps, donc la mitzvah d'Aaron, d'une certaine manière, elle est éternelle. Et donc en cela, elle est beaucoup plus puissante, plus forte que la mitzvah, enfin, le cadeau que les shvatim, que les chefs des tribus ont apporté à l'inauguration du Mishkan. Alors, la tfila qui remplace les korbanot, alors, d'abord, y a deux. En fait, quand on dit qu'on remplace les korbanot par des tfilot, en fait, il y a deux types de korbanot. Il y a le korban tamid, le korban qu'on amène tous les jours, matin et en fin d'après-midi. Et celui-là, il serait éventuellement remplacé par Shacharit et Mincha. Et puis, Arvit, c'est un peu différent, ça n'a pas exactement le même statut. Et ça correspond au fait que, une fois qu'on a apporté les korbanot vont brûler pendant toute la nuit. Donc ça correspond à la, et on devait s'occuper un peu pour que ça brûle bien. Et donc ça, c'est la tfila d'Arvit. Mais il y a aussi d'autres korbanot qui sont les korbanot que les gens apportent parce qu'ils ont ou bien parce qu'ils ont fait des fautes, ou bien parce qu'ils ont envie d'en apporter, là aussi, on remplace le korban khatat par... Et c'est essentiellement sur ce genre de korbanot qu'on a dit qu'on remplace les korbanot par la prière. D'autres disent c'est keneged. On a fixé les tfilot de par référence, en quelque sorte, au korbanot du matin et de korban tamid, du matin et soir. Et là, c'est keneged, ça veut dire, oh, ça correspond. Mais on dit pas que ça, c'est pas là qu'on a dit qu'on remplace par nos paroles. On remplace les korbanot. Ça, c'est dit sur les korbanot, sur un korban khatat, par exemple, quelqu'un qui a fait une faute, qui doit amener un korban khatat, il remplace ce korban khatat par la lecture, l'étude de la parasha de khatat, du korban khatat dans la Torah. Mais ce n'est pas une institution, si vous voulez. Il n'y a pas d'obligation. Personne n'a une obligation, quand il a fait une faute, de lire la paracha. Ce n'est pas marqué dans le Shulchan Aruch qu'on est obligé de lire la paracha si on a fait une faute. Tandis que l'allumage des Nérodes de Chanukah, c'est une obligation. C'est devenu une mitzvah. Alors, dans le Rambam, il dit la chose suivante. Il dit que on a fixé Simcha et Hallel, la joie et le Hallel, c'est-à-dire les louanges qui sont donc contenues dans la sélection de Tehillim que représente le Hallel. Ça, c'est ce qu'on a fixé pour Hanouka. Et après, il dit aussi, on allume aussi des Nérotes. Et quand il parle d'allumer les Nérotes, avant de dire ça, il a dit l'histoire du nes de l'huile. Et il dit, parce que le nes de l'huile, c'est que ça a brûlé 8 jours, alors qu'on avait du carburant que pour, enfin de l'huile que pour 1 jour. Et donc, à cause de cela, les Chachamim, le Rambam utilise une drôle d'expression, il dit, les Chachamim, mais auto adore, les Chachamim de cette génération ont fixé la mitzvah, qu'on fixait qu'on allumait des bougies, des lumières à la porte des maisons, etc. Et après, il dit, hey, le fait d'allumer des bougies, c'est une mitzvah tassé, Midivrei Sofrim, c'est-à-dire c'est une mitzvah tassé midérabanan. Comme la lecture de la Megillah d'ailleurs. Et donc le Rambam, il cite la mitzvah de Hadlakat HaNerot, qui est pour nous l'essentiel, le principe de Hanouka, il le cite tout à la fin. Il dit d'abord Hallel, Simcha et Hallel. Normalement, le Rambam, il aurait dû présenter d'abord la mitzvah, puis ensuite ajouter que ces jours-là sont aussi des jours de Simcha et de Hallel, et par conséquent, on n'a pas le droit de faire des spédim, on n'a pas le droit de faire des éloges funèbres, ni de faire des taaniyot, de faire des jours de jeûne. Si le Rambam veut dire que la takana des Chachamim, la décision des Chachamim d'inventer cette mitzvah d'Hadlakat HaNerot, elle a été prise immédiatement, disons l'année d'après le miracle de Hanouka. Alors ça veut dire qu'on a continué, évidemment, d'allumer au Beth Amikdash la menorah. Chachamim n'ont pas aboli l'allumage, c'est une mitzvah minatora, d'allumer la menorah dans le Beth Amikdash. Et donc on avait en même temps un allumage dans le Beth Amikdash et en même temps un allumage à la porte des maisons. Au départ, ça a dû être comme ça. Et après, bon, quand on n'a plus de Beth Amikdash, alors seul l'allumage à la porte des maisons a continué. Le mot auto-adore, cette génération-là, je ne sais pas directement, a priori c'est comme ça qu'il faut le lire, mais est-ce que peut-être il peut dire ici auto-adore d'une certaine génération? Alors peut-être c'était seulement plus tard qu'ils ont instauré cette mitzvah d'Hadlakat HaNerot. Peut-être certains disent que les Chachamim, ils n'aimaient pas tellement qu'on fasse une fête pour une victoire militaire. Alors en vérité, la fête, elle n'était pas pour la victoire militaire, elle était pour le miracle de la victoire militaire. Mais ça glisse facilement, on va faire la fête pour la victoire, alors qu'en vérité, c'est ce qu'on veut faire, c'est une fête dans laquelle on remercie Hachem d'avoir fait ce miracle qu'une minorité, une archi-minorité peut gagner une guerre, va gagner cette guerre contre la majorité, y compris des gens qui étaient aussi leurs frères quasiment et qui étaient acquis aux idées grecques. Et donc, ils ont décidé qu'on allait faire cette Hadlakat HaNerot la Simcha et le Hallel pendant 8 jours. Les 8 jours ici sont présentés comme 8 jours à cause des 8 jours du Nes. C'était une inauguration. Des inaugurations, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu en tout cas deux qui nous intéressent. Il y a eu l'inauguration du Mishkan par Moshe Rabbeinu. Ça s'est fait en 8 jours. Pendant 8 jours, il y a eu ce qu'on appelle la période des Milouim. Le Kohen Gadol à cette époque-là, c'était Moshe Rabbeinu. C'est pas Aaron. C'est pas Aaron qui faisait le travail, c'était Moshe Rabbeinu. Et ensuite, a laissé sa place à Aaron. Moshe Rabbeinu, il faisait le travail de Kohen Gadol et lui, il n'avait pas besoin des vêtements de Kohen Gadol. Il était avec des vêtements blancs, c'est tout. Et ça a duré 8 jours. Quand Shlomo HaMelech a construit le premier Beth Amikdash, il a fait des fêtes d'inauguration qui ont duré 14 jours. Puisqu'on était en train d'inaugurer un Beth Amikdash, on s'attendrait à ce que les fêtes de l'inauguration durent 14 jours. Mais elles n'ont duré que 8 jours. Alors on peut dire ces 8 jours, bon, ça veut dire qu'on a fait l'inauguration comme c'était peut-être pas une première inauguration, alors on l'a fait par rapport au Nes de l'huile. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle on a fait cette inauguration durant 8 jours. Dans Maccabée, on raconte que les Bnei Israël, à cette époque, ils ont été très affectés par le fait qu'ils n'avaient pas pu fêter Soukhot à cause de la guerre. Ils n'ont pas pu fêter Soukhot. Et que ils ont voulu, au moment de Hanouka, ils ont voulu en quelque sorte rattraper un peu Soukhot. Soukhot, ça dure 8 jours. Donc, ou bien les 8 jours viennent de leur volonté de rattraper Soukhot, ou bien les 8 jours viennent du Nes et ça marche très très bien puisque ça permet de rattraper Soukhot aussi. Ils ont fait les choses sur le modèle de Soukhot. Par exemple, le Hallel qu'on récite à Hanouka, C'est ce qu'on appelle le hallel complet. Par opposition au hallel partiel qu'on récite, par exemple, dans les derniers jours, en dehors du premier jour de Pessah, pendant tout Pessah, on récite un hallel incomplet. Alors, il y a des raisons pour cela, mais c'est un fait. Soukhot, c'est spécial. Pendant Soukhot, on récite le hallel complet. Et sur le modèle de Soukhot, on a fait la même chose à Hanouka. Hanouka aussi, on récite un hallel complet avec tous les paragraphes, en fait. Donc, c'est déjà une parenté avec Soukhot. C'est la seule occasion où on a pendant 8 jours un hallel complet. Il n'y a pas d'autre moment où pendant un certain temps on récite, même si ce n'était pas 8 jours, même 2 jours, 3 jours, on récite le hallel complet. Ça n'existe pas.
C'est pas
Quoi? Quoi?
C'est pas votre problème.
Il n'y a que à Sukkot qu'on récite le hallel complet. Donc c'est étonnant. On veut d'avoir donné à une fête qui a mis des rabbanan, cette roumra, cette force, cette permission aussi de réciter le hallel complet. C'est pas évident de réciter le hallel complet. Parce que bon, on récite le hallel complet, alors on doit en tout cas faire une bracha. Sur le hallel incomplet, il y a la Sfaradim, l'Ashkenazim n'ont pas tout à fait le même halakhot, mais certains disent qu'on ne fait pas de bracha sur un hallel incomplet. On ne fait pas la bracha à Rosh Chodesh, par exemple, ou les derniers jours de Pessah. On ne fait pas de bracha. Certains ne font pas la bracha parce que le hallel n'est pas complet. Par contre, à Sukkot et à Hanouka, on fait 8 jours et avec la bracha. Donc, c'est déjà ça qui ressemble à Sukkot. Et puis, il y a quelque chose d'encore plus fort, c'est que dans Maccabée, ils nous disent que ils disent que comme ils étaient un peu tristes de ne pas avoir pratiqué Soukhot, certaines gens ont, à l'époque de Hanouka, ils sont venus avec un loulav et un étrog. C'est-à-dire, quelque part, la nostalgie de Soukhot, ça n'a aucun sens, bien sûr. Hein. On remplace pas Soukhot comme ça. Mais eux, ils avaient envie. Alors, ils ont, pour se rattraper, leur façon de se rattraper un peu, ça a été de prendre les Arba Minim. Ils n'ont pas construit. Personne ne dit qu'ils ont construit des Soukhot. Alors, effectivement, certains disent que Yom Kippour, c'est le jour de la Kapara. Donc, a priori, après Yom Kippour, Hachem nous a pardonné, point barre. Alors certains disent quand même que Hoshana Rabba, les kabbalistes en fait, ils ont fait d'Hoshana Rabba une espèce de super Kippour, quoi. C'est-à-dire que on va prier comme si c'était un espèce de deuxième Kippour. Et les Hasidim disent que on peut aussi aller encore jusqu'à Hanouka. Alors est-ce que ça vient de ça ou pas? Je sais pas. C'est possible que ça ait à voir avec cela, si on peut parler comme ça, mais je ne sais pas, je ne peux pas le dire.
Quand on parle des corbanes, on dit à la prière qu'on entend ces corbanes. Les corbanes sont dit au début de
Vous savez, quand on dit que la prière remplace les korbanot, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que on a instauré les trois prières, pas pour remplacer, mais pour tenir compte de ce rythme de trois prières. Alors, oui, de trois prières, alors que en vérité, on a pris un modèle où il y a que deux korbanot, parce que les korban tamid, c'est seulement deux, et on a fait trois prières, mais on dit que la troisième, elle est un peu plus facultative que les deux autres. La prière du soir, c'est de Yaakov. Elle n'a pas de caractère aussi obligatoire que les deux premières, que celle de Shacharit et de Mincha.
Les corbanotes sont dits au début du matin, quand on fait chasser. On dit des corbanotes, c'est d'accord.
Alors ça, c'est autre chose.
C'est quoi ça?
Ça, c'est autre chose. Ça, c'est.
Ça n'a rien à voir avec ça, en fait.
Non, ça n'a rien à voir.
C'est quoi? Alors, en fait.
C'est une façon d'essayer de parler de la capara avant de commencer à prier. Un peu comme si on voulait se laver un peu, se débarrasser un peu des fautes. Alors, on mentionne des textes qui parlent de la capara.
C'est souvent on dit qu'il y a une génération de jeunes qui, avant de faire la tfila, ils faisaient une heure de
Oui,
préparation.
non, mais ça, c'est, oui.
Est-ce que c'est
Non,
encore
c'est pas ça, ça n'a rien à voir. C'est le vide qu'ils essayaient de faire en eux, c'était d'être entièrement consacré à la prière. Donc, essayer de vider toutes les esprits de toute autre chose. Je ne sais pas comment on fait ça, mais bon, eux, ils savaient faire ça.
le texte qui dit qu'on dit sur le corbanote du matin, c'est pas corbanote,
Non,
c'est pas.
c'est pas, c'est l'essentiel des korbanot du matin. Le korban du matin, c'est le paragraphe qui parle du korban tamid, qui est korbani lachmi, mon pain, etc. Alors après, du coup, on a mis tous les autres parce que ça permet de se mettre dans l'ambiance, de nettoyer en quelque sorte avant de commencer vraiment à prier.
Et sinon, madame, en fait, dans le texte, du coup, on ne doit pas dire la avant
Non,
le
non, je ne dis pas,
royaume.
il y a des opinions qui disent ou qui disent pas. Si on n'a pas de minhag, je pense qu'il vaut mieux pas commencer à dire, comme toujours. Les brachot, si on a un doute dans les brachot, on les fait pas. Ouais. Donc, si on n'a pas un minhag qui te dit, fais la bracha, c'est mieux de pas la faire. On parle de Rosh Chodesh, oui. On parle du Rosh Chodesh et Rosh Chodesh et Pessah, les Pessah, sauf le premier et le deuxième jour, nous, premier jour et pour nous les deux premiers jours. Où on dit un hallel partiel. Mais bon, si on a un minhag de, on prend un sidour, où il y a la bracha, il y a la bracha, on fait la bracha, c'est pas.
Si on a l'habitude de le faire parce que dans le silence c'est comme ça,
Oui, non, il
ça
vaut
fait
mieux
déjà.
continuer. Je
Voilà.
dis quelqu'un qui a pas un minhag, quelqu'un qui fait tchouva ou qui se convertit ou un truc comme ça, c'est peut-être pas nécessaire de prendre un truc où on fait une bracha et d'après, tout le monde pense pas qu'il faut faire la bracha. Alors, bon, je sais pas.
Tout à l'heure, il faisait une histoire d'Égypte, dans l'Égypte par rapport à Hanukkah, c'est quoi?
C'est pas très clair que ça s'appelait vraiment Yehudit. Il y a peu de noms. Ça veut dire qu'il y a deux histoires. Certains disent qu'on glissait cette histoire, appelle Yehudit la fille en question. Je sais pas si elle s'appelait Yehudit. Mais il y a aussi une histoire d'une autre fille qui avait quelque chose d'un peu analogue. Et la fille des Hashmonaïm. Et je sais pas, je crois que j'avais lu une fois un endroit que les gens ont tendance à confondre les deux, mais qu'elle ne s'appelle pas Yehudit, mais j'en sais rien. Je ne me
Et
suis
là,
jamais.
la carrière de Sarah Schneider a commencé à Chabad Hanouka. On a entendu de la communauté de Vienne, où ils étaient réfugiés. C'était un ami de Rachid sur la famille, il a entendu faire un discours enflammé sur les religions de Hanouka. C'est
Oui.
ça qui a fait naître même les aspects
Parce que c'est l'histoire de la
qui
fameuse, il y a
a.
le fameux tableau très connue de Judith Holofernes, celle qui a coupé la tête. Justement, il y a une histoire d'une femme qui était censée être violée par le gouverneur et qui, en fait, s'est débrouillée pour lui couper la tête. Et ça a donné lieu à un fameux tableau de je ne sais plus qui. C'est qui? C'est un type connu qui a écrit, qui a fait ce tableau. Il était à la ferme, je me rappelle plus. C'est un des grands. Et alors, elle s'appelle Judith Holofernes. Alors, certains disent que c'est la, ils confondent avec la Judith de Hashmonaïm. La Judith de Hashmonaïm, je crois pas qu'elle ait coupé la tête. Elle est là. Elle a, à moins que c'est la même, je sais pas. En tout cas, il y a deux histoires, peut-être, ils n'en font qu'une seule, peu importe. En tout cas, elle a sûrement déclenché la guerre.
Le paravent. C'est la parole du paravent.
Ah, le caravage. Ouais, merci. Trouvais que c'était le Caravage, c'est un grand peintre, quoi. La fête de Hanouka, elle a, ça je crois qu'on en avait déjà parlé, cette singularité d'être une fête où tout le monde pratique, en tout cas, un des embellissements. On a parlé de ça, non? OK. Alors, c'est tout à fait étonnant, si vous voulez. Il n'y a pas d'autre exemple d'une mitzvah où tout le monde pratique la mitzvah avec le hidour, avec l'embellissement de la mitzvah. Alors, il y a donc deux embellissements. Il y a l'embellissement appliqué classique, qui est 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Non, pas 9. Ouais. Il s'est arrêté à 8. Ouais. Non, je me trompe, j'ai confondu. Ouais, d'accord. Il n'y a pas de 9. Cet embellissement-là, vous savez bien que c'est l'opinion de Hillel, Beth Hillel. Il y a une autre opinion qui dit que on tient compte aussi des jours, mais Beth Shammai, eux, ils disaient, on fait 8, 7, 6, 5, etc. Et sur quoi est-ce, pourquoi ils ont pris ce modèle de 8, 7, 6, 5? Sur quel modèle est-ce qu'ils ont fait? Et il faut savoir que quand les Chachamim prennent une décision, ils prennent toujours un modèle dans la Torah. Ils n'inventent pas complètement les choses. Ils prennent un certain modèle et ils le plaquent sur une nouvelle situation. Et là, les gens de Beth Shammai disent que leur modèle, ce sont les taureaux, c'est-à-dire les 70 taureaux que les Bnei Israël apportent pour les goyim à Sukkot, qui sont apportés aussi de façon dégressive, 13, 12, 10, etc. Sur les jours de, en tout, ça fait 70, d'accord? Mais on ne fait pas 1, 2, 3 ou 5, 6, 7, etc. On fait 13, 12, 10. Sur ce modèle-là. Alors, la question qu'on peut se poser, pourquoi on y sont allés chercher un modèle des taureaux de Sukkot pour Hanouka? Je veux rendre compte pourquoi ça leur plaisait pas 1, 2, 3. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement d'exemples de 1, 2, 3. Par contre, des exemples de 8, 7, 6, il y en a un. Hein, donc, ils sont allés chercher. Mais si on dit qu'effectivement, à l'époque de Hanouka, il y avait des gens qui voulaient mettre du Sukkot dans Hanouka. Alors on comprend que c'est comme si cette chita de Beth Shammai était réminiscente de cette idée de faire du Sukkot au milieu de Hanouka. Le deuxième embellissement, La takana, elle était une takana de faire par chacun le travail qui jusque-là se faisait par le Kohen Gadol. Mais ça, c'est quelque chose qui, par la suite, quand on a perdu le Beth Amikdash, ça s'est généralisé. C'est-à-dire à Kippour, du temps du Beth Amikdash, c'était le Kohen Gadol qui faisait tout le travail. Maintenant, nous, si on ne fait pas nous-mêmes le travail à Kippour, personne ne le fait pour nous. Il n'y a personne qui fait le travail pour le Klal à Yom Kippour. Chacun doit faire le travail. Et donc ici, l'allumage de la menorah qui était fait par le Kohen Gadol, il est maintenant d'une certaine manière fait par chacun, par chaque maison. Alors, la maison, pourquoi c'est l'unité maison? Peut-être que ça fait référence au fait que c'est la maison du Kohen Gadol qui a fait la guerre, quoi, quelque part. Ils se sont tous, les filles, la fille, les garçons, etc., se sont mobilisés, c'est eux qui ont fait la guerre. Maintenant, évidemment, que quand on va indiquer combien de personnes vivent dans la maison, on peut se demander en quoi est-ce que c'est un embellissement de la mitzvah de Hadlakat HaNerot. Donc, quel est le lien avec la menorah? Qu'est-ce qu'on veut? En quoi est-ce que c'est un embellissement de la mitzvah de Hadlakat HaNerot que d'allumer en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans la maison? Voyez la question. La menorah, c'était de la lumière qu'on allumait. Ça représente le rayonnement de la menorah. C'est le rayonnement de la sagesse, de la chokhma d'Hachem, bien sûr. La menorah, elle servait pas à éclairer dans le Beth Amikdash, ni à chauffer. D'accord? Donc, elle n'était pas fonctionnelle au sens habituel du feu, et c'est pour ça que nous non plus, notre allumage, il n'est pas fonctionnel ni au sens du chauffage, ni au sens de l'éclairage. Au contraire, Anerot alalu en lanu rechout. On n'a pas le droit de les utiliser comme éclairage. C'est la raison pour laquelle on met toujours un shamash. C'est-à-dire, on met une lumière qui elle, est une lumière profane complètement, qui est la lumière qui nous éclaire si on doit passer là, et pour éviter de considérer qu'on est éclairé. Si par exemple vous passez dans la nuit, vous arrivez chez vous, là, il ne faut pas que pour mettre la clé dans la serrure, vous utilisiez la lumière des Nérodes de Hanouka. Et pour qu'on ne le fasse pas, il y a une autre lumière. Qu'elle soit électrique, qu'elle soit une autre bougie ou n'importe quoi, qu'elle soit incluse dans la construction de ce chandelier à 8 branches ou pas, pas d'importance, mais il faut qu'il y ait une autre lumière que celle des Nérodes de Hanouka pour qu'on n'utilise pas les Nérodes de Hanouka pour s'éclairer. OK. Donc là, c'est pas fonctionnel. C'est clair. Maintenant, enfin, c'est pas fonctionnel au sens de ni pour le chauffage ni pour l'éclairage. C'est fonctionnel dans quel sens? C'est fonctionnel au sens de la publication du miracle. D'accord? C'est la raison pour laquelle c'est mis à l'extérieur de la maison a priori. Ce qui fait que quand vous rentrez chez vous, vous l'avez éventuellement vu en rentrant chez vous, ou bien vous avez allumé à ce moment-là. Mais après, vous fermez la porte et vous êtes chez vous et vous ne voyez plus du tout les Nérodes de Hanouka. Vous les vôtres et vous ne les voyez pas. Si vous avez une fenêtre, alors peut-être vous allez voir les votre Hanouka des voisins. Si vous voyez la porte des voisins, vous allez voir ceux des voisins, mais les vôtres, vous ne les voyez plus. Bon, on n'a pas d'obligation de sortir sur le pas de la porte, sur le seuil, et de regarder ces nérotes. Donc c'est vraiment fait pour publier en direction des autres. Et les autres, c'est les juifs, hein, ce n'est pas les goïms. Alors, d'accord, on publie. Alors, ça, on a compris. Ça reprend, c'est bien, disons, c'est pour rayonner. De la même manière que la menorah, elle rayonnait dans le, elle rayonnait, mais pas en tant que, encore une fois, pas en tant que lumière, ni en tant que chaleur, mais elle rayonnait la chorma. Ici, la nôtre, elle rayonne le nes. Elle rayonne la chorma d'Hachem qui a fait ce nes. Là-bas aussi, c'était le rayonnement de la sagesse divine. Alors maintenant, il se trouve qu'on allume par maison. Donc ça veut dire, c'est le maître ou la maîtresse de maison, les femmes comme les hommes, qui ont une pardon, qui ont une obligation d'allumer à la porte de leur maison. Et c'est absolument fondamental d'allumer à la porte de la maison. Il y a pas mal de gens qui font cette erreur. Ils sont invités chez les voisins pour allumer avec les voisins. Le voisin, il allume chez lui. Et puis, les gens, ils disent Amen. Et ils s'imaginent qu'ils se sont acquittés de la mitzvah de Hanouka. C'est pas vrai. On peut pas s'acquitter de la mitzvah de Hanouka si on n'allume pas chez soi. C'est obligatoirement chez soi. On peut pas. Chez soi, ça veut dire c'est l'endroit où on mange et où on dort. Alors, bien sûr que si vous partez en week-end ou vous partez pour un Shabbat, là où vous allez, vous pouvez allumer. Ça doit pas être ma maison permanente ou je sais pas. J'ai une chambre pour une journée dans laquelle je vais manger et je vais dormir. J'ai une obligation à la porte de cette chambre, de cette maison, d'allumer un air de Hanouka, et je peux pas m'en acquitter avec un allumage de quelqu'un d'autre. Même la mitzvah, il existe une mitzvah de celui qui, par exemple, il n'a pas de lumière, il n'a pas de bougie, et il peut pas s'en procurer. Mais s'il voit un allumage chez quelqu'un, il peut faire une bracha chez Hassan Issim, le premier jour chez Rianou. Il peut pas faire la bracha de la dlik parce qu'il n'est pas madlik, mais la bracha de chez Hassan Issim, il peut la faire. Donc, celui qui voit, il dit cette bracha. Mais il ne peut pas la faire sur une lumière qui a été allumée par quelqu'un qui n'a pas allumé chez lui. C'est-à-dire qu'on peut pas, même si on considère, par exemple, les haramim, ils ont décidé qu'on allumait les lumières de Hanouka à la choule. À la choule, il n'y a personne qui dort et qui mange là-bas, mais c'est un allumage spécial, comme c'est un endroit public, quoi. Alors, il y en a qui veulent dire que, du coup, on peut aussi allumer dans une salle, par exemple, un soir de Hanouka, etc. Vous faites une fête, un mariage ou autre chose, et les gens, ils allument à la salle du mariage. Ils vont pas dormir là-bas, on n'est pas yotzé. Quand ça marche pas, on peut pas, ça suffit. C'est pas, y a rien de mal à allumer. Il y a un problème de faire la bracha si on n'est pas chez soi. Et pour celui qui n'est pas chez lui, même si l'autre, à tort ou à raison, il fait la bracha, à raison, vous pouvez, à raison, d'accord, c'est bien qu'il ait fait la bracha, je peux dire amen, je dis amen à une bracha. Quand je rentre chez moi, quelle que soit l'heure, je dois allumer. À nouveau, on peut pas être yotzé. Si on n'est pas, si c'est pas un allumage sur une maison.
L'allumage à la soupe, il nous rend pas
Non.
c'est quoi sur
Il n'est pas fait pour ça. Et le problème, c'est que certains veulent dire, par exemple, les Lubavitch qui allument, ils disent qu'ils allument publiquement sur le modèle de l'allumage dans la soupe. Mais il y a beaucoup de décisionnaires qui disent que on peut pas prendre le modèle. La Takana, elle était à la choule. Point barre. C'est tout. Et pas ailleurs. Alors, allumer où ils veulent, ils peuvent allumer où ils veulent. Le problème, c'est la bracha. Si on fait une bracha alors qu'on n'a pas le droit de la faire, c'est une bracha le vatala. Publication. C'est la publication dehors. Ça s'appelle Pirsum Hanes. Pirsum, c'est en hébreu moderne, Pirsomet, c'est la publicité. Oui, parce que ça a été, c'est ça la takana, que maintenant les gens vont le faire à partir de leur maison au lieu de faire de la maison d'Hachem.
Qu'est-ce que si je ne dors pas chez moi, par exemple, est-ce que je dois allumer chez moi
Et vous dormez pas chez vous et vous mangez où? Et vous dormez, alors c'est bon. Si vous dormez et que vous mangez là-bas, vous pouvez allumer là-bas et vous pouvez éventuellement considérer que vous êtes yotzé avec son allumage à lui, si s'il veut bien. Ouais. S'il veut vous inclure. Ouais.
Et pourquoi nous sommes invités sur la porte alors que moi je retenais beaucoup l'allumage de la fenêtre parce que.
Non, alors, la Takana, c'était à la porte des maisons. Alors, pourquoi à la porte des maisons? Parce que c'est là qu'on passe de l'intérieur à l'extérieur. La fenêtre, on regarde à l'extérieur, mais on passe pas. Là, on passe. Donc, j'allume pour les autres. Oui, non, quand j'entre chez moi, avant de m'isoler, en quelque sorte, c'est comme si j'avais le souci de, voilà, moi, je rentre chez moi maintenant, mais je publie le NES quand je rentre. Et donc la question que je posais, c'était finalement comment on peut interpréter ce passage de une lumière par maison à un nombre de lumières équivalent, pas équivalent, le nombre de lumières qui correspond au nombre de personnes dans la maison. Pardon?
C'est pas un question suivant.
Oui, mais pourquoi on aurait pu, pourquoi on prend le nombre de personnes? On peut dire, si j'ai envoyé, est-ce qu'il y a une mitzvah d'allumer 10, même si on n'est que 5 à la maison? C'est encore plus grand, non? Ça n'a pas de sens, 10, si on n'est pas 10. Non, mais si la mitzvah c'est de publier plus, alors je suis chez moi, je devrais en allumer une. Au lieu d'une, moi je suis généreux, j'en allume 10. Non, ça marche pas. Par contre, si on est 10 personnes dans la maison, oui, je peux en allumer 10.
Et pourquoi il y a cette différence avec les séparats qui n'allument que par les deux?
Non, parce qu'ils n'ont pas fait
C'est bon.
cet embellissement, il n'a pas été
Est-ce que
le
ce n'est pas comme si on devenait une source première de la publication au même titre que Aaron avec la Ménorah?
Alors, bien sûr que on devient source puisque personne ne le fait pour nous, on doit le faire, on est obligé de le faire. Mais pourquoi, ça fait un nerf. Et pourquoi quatre nerfs quand il y a un couple et trois enfants? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on met en avant le nombre de personnes qu'il y a dans la maison? A priori, ça veut dire, s'il y a le nombre de personnes qu'il y a dans la maison, ça indique une forme de responsabilité du responsable de la maison. Le responsable de la maison, il dit, voilà, j'ai sous ma responsabilité, que ce soit l'homme ou le mari, la femme, ou le gestionnaire ou je sais pas quoi, j'ai sous ma responsabilité tant et tant de personnes.
Le cordon de César, il faut que exactement le même nombre.
Non, mais là-bas, c'est parce que il faut s'inscrire pour qu'on soit sûr de le manger entièrement et que d'autre côté, qu'il y en ait suffisamment pour chacun. C'est pour ça que ça doit correspondre. Non, chacun a l'obligation de manger du Korban Pessah. Donc, il faut qu'il mange une quantité. Et a priori, on va faire la shrita ensemble, de telle sorte qu'il n'en reste pas. Parce que, comme on est censé le manger jusqu'au matin, ou même jusqu'à Hatzot éventuellement, bon, il vaut mieux qu'on soit assez nombreux pour le manger. Surtout qu'en plus, on le mange après le repas, quasiment, quand on est déjà rassasié. Donc, il faut s'y mettre à plusieurs pour arriver à le manger. La vérité, si là, dans la maison, il y a des enfants et qu'il n'y a pas de couple, par exemple, la même chose. Le couple, il compte que pour un. Bon, c'est un dîner qui existe souvent. Pour un couple, on apporte c'est une portion, quoi, quelque part. Et pas non plus. Ça, c'est à titre individuel là-bas. Non, là-bas, comme chacun y va pour soi. C'est pas. Si on y va à 14, ben, il faut être 14, mais on peut pas. Il n'y a pas un de la famille ira pour tout le monde. Tout le monde, tous les hommes, puisque les femmes ne sont pas astreintes, puisque c'est lié au temps, les hommes ont l'obligation d'aller à Yerushalayim pour voir et être vus.
Mais là, ce qui me surprend quand la responsabilité, c'est qu'on ne dit pas tous les membres par exemple, de la maison mère des enfants qui devaient venir.
Oui, c'est pas une question
Mais
de
les familles les enfants qui hein? Donc, où les
les
filles,
filles.
où les filles, en fait, c'est à l'extérieur qui va, ensuite elles vont ici.
Bon, mais ça, c'est parce que comme elles vont, soi-disant, toujours se marier et qu'elles ne vont plus allumer à titre personnel, alors
Je ne
il y a
sais
des
pas.
familles où elles commencent déjà à partir de la bat mitzvah à pas allumer. De quoi? Oui, mais c'est. Ça ne change rien à ce que j'ai dit.
Mais pourquoi l'enfant des hommes dans
C'est pas
l'histoire?
une mitzvah qu'il a. D'ailleurs, la vérité, c'est que quand on dit qu'on allume en fonction du nombre de personnes, c'est le maître ou la maîtresse de maison qui allume autant de fois. Alors, on a pris l'habitude de faire allumer par les enfants le cas échéant, mais en vérité, le hidour, c'est le maître de maison allume en fonction d'eux. Donc, c'est pas du tout. Il ne veut pas du tout les acquitter comme tels, mais c'est une façon de montrer que dans cette maison, il y a tant et tant de personnes. Et pourquoi est-ce qu'il faut montrer le nombre de personnes? C'est-à-dire, pas pourquoi, c'est pas une obligation, mais on peut se demander qu'est-ce que ça veut dire?
Je sais pas si c'est la raison, mais c'est très bon. En effet, quand vous voyez devant les gens, parfois, tout ce qu'on a fait pour vous, c'est un défi. Peut-être. Je vous dis, c'est devant les gens. Mais c'est là aussi pour
Pardon?
vous. Devant les gens, je ne sais pas. Il y a un tableau, c'est un tableau. C'est des tableaux, c'est un tableau.
Bon, je sais pas, faut pas imposer une vision, quoi, de pour réfléchir à ce que ça vous dit de. Non, moi je pense que c'est un problème de responsabilité, mais c'est-à-dire que la maison, elle doit rayonner. On veut que la maison rayonne comme la menorah. Donc lui, Aaron, il avait le pouvoir de faire rayonner la menorah au nom de tout le peuple d'Israël qui servait Hachem. Ben, nous aussi, on fait, j'allume, etc., au nom de la maison que je représente. C'est pour ça que bon, c'est comme si je donnais un peu plus de poids à mon allumage. Pense qu'il y a des choses plus profondes que ça, mais pour l'instant, je connais ça. Alors, il y a des gens qui cumulent. On peut, il n'y a pas l'interdit de cumuler. Le problème, c'est que si on veut cumuler, il faut faire attention. Cumuler les deux idurim. C'est-à-dire de faire à la fois en fonction du nombre de jours, à la fois en fonction du nombre de personnes. Mais si on allume simplement comme ça, tu allumes 10, tu sais pas si ça veut dire c'est 5 plus 5, ou bien 6 plus 4, ou etc. Si c'est des jours, des personnes,
Ah,
etc.
ça se passe forcément sur des papiers qui sont différents.
Alors, le seul moyen de le seul moyen d'être sûr qu'on ne va pas se tromper, ce serait d'allumer sur des chandeliers différents. T'allumes?
Il y a les deux fois sur la même facture, enfin deux jours, pour deux personnes sur la même facture.
Ça peut exister. Et les gens, ils peuvent te. Ils décident que c'est ça que ça veut dire. Donc toi, tu sais pas. Mais ça, de toute manière, on peut pas savoir. Ça, c'est pas interdit. S'il y en a un, si les uns font le hidour du nombre de jours et les autres font le hidour du nombre de personnes, il peut très bien y avoir.
Aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui fait des
Tout le monde, pratiquement tout le monde fait le hidour du nombre de jours, mais il y a beaucoup de gens qui allument avec plusieurs hanoukiot, comme on dit, pour avoir le deuxième hidour, le hidour du nombre de personnes. Mais tu peux compter le nombre de chandeliers qu'il y a pour savoir combien de personnes et combien, et sur chaque chandelier, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Et après, je dois méditer devant
Non, bah, vous pouvez, si vous pouvez regarder tout ce que vous savez dire, si c'est sur une même ligne, alors là, vous avez toutes les combinaisons, enfin pas toutes, mais vous avez plusieurs combinaisons possibles. Si vous êtes le quatrième jour, alors s'il y a, je sais pas, s'il y a sept lumières, vous êtes le quatrième jour, alors vous savez qu'il y a trois personnes dans la maison. D'accord? Si vous savez le jour, mais si vous ne savez pas quel jour on est, alors là, vous ne savez pas.
parce que je parle de vérité sur sa propre personne.
Hmm?
Je parle de vérité sur la propre personne, mais je donne, parce que j'essayais de le faire tout à l'heure, mais bon, je pensais à au chibou, je pensais que peut-être c'est plus que ça.
Non, pourquoi pas? Vous pouvez.
Il y a des listes de pays, mais je suis bien, je me dis qu'on veut publier, donc il doit me faire quelque chose, me marque.
Dire des télims, c'est très bien, mais ça n'a rien à voir avec.
Je faisais des choses qui avaient à voir, des choses de.
Regardez l'élu. Voilà, on le chante. Elle a l'irotam bilbad, qui fait pour être regardé. Elle a nous rechoute l'ishtamesh ba'em. Elle a l'irotam bilbad. N'a pas le droit de les utiliser. On peut seulement les regarder. Pourquoi est-ce que vous dites chacun? On a toute la mitzvah pratiquement toutes les mitzvot concernent chacun, non?
Mais pourquoi est-ce que particulièrement pour moi
Non, ça c'est. Étant donné que la mitzvah elle concerne la maison, alors on peut faire plus que la maison et mettre en évidence les gens qui habitent cette maison. L'habitude, les mitzvot qu'on a, à part la mezouza qui est une obligation de la maison, mais on n'a pas une obligation de mettre un nombre de mezouzot égal au nombre de personnes qui habitent la maison. C'est parce que c'est une obligation seulement de la maison. Tandis que la lumière de Hanouka, c'est une obligation de chacun d'entre nous d'allumer aux portes de sa maison une lumière. Hanouka, ça veut dire inauguration. Oui, mais c'est l'éducation, pas enseignement. L'éducation, c'est une inauguration. C'est en fait une façon de mettre quelqu'un sur les rails. L'éducation, c'est de le mettre sur les rails. En tenant compte de quels sont les rails adéquats. Il n'y a pas toujours le même écartement de rails entre l'Espagne et la France, etc.
Le
Donc,
père de famille qui a été comme ça pour plusieurs années, un petit peu, ça m'a étonné. Il doit réfléchir à chacun comment mettre.
Quand il va l'éduquer, oui, j'espère que pas seulement le jour de Hanouka,
Oui,
mais.
comme ça, je te rappelle, je ne sais
Oui.
pas. Il ne faut pas les regarder. Je suis bien que tu n'as envie de dire pas de ça. Je regarde.
En fait, quand on est venu à la question, on a vu la donc, en fait, normalement, ça, ne pas venir à
Il n'y a pas de lumière de Hanouka, vous voulez dire. Oui, il n'y a pas. Ouais. C'est pas fait pour. C'est fait pour être Mepharsem. Nous qui allumons à l'intérieur, alors on a. Mais c'est. Nous, on ne fait pas la mitzvah telle qu'elle a été prévue. On l'allume à l'intérieur parce qu'on n'a pas la possibilité d'allumer à l'extérieur. Pour observer.
Pardon?
Pour observer.
Vous observez les lumières.
Oui, mais on a le droit, les rotas bilvad.
Je ne suis pas
Ah!
là.
Ah non, alors, bon, effectivement, je ne sais pas ce dîne-là que les femmes ne travaillent pas.
C'est dit ou
C'est sûrement un minage, mais.
non? De toute façon, très pour l'enfant. La publicité est quand même très difficile. Parce que comment on va.
Le problème, si vous voulez, quand vous voulez réfléchir sur une mitzvah, il faut regarder comment elle doit être faite de façon idéale. La façon idéale, c'est d'allumer à l'extérieur et tout ce que vous pouvez raconter de ce que la lumière fait quand elle est à l'intérieur, c'est joli, magnifique et tout, mais vous n'êtes pas en train de parler de la mitzvah puisque vous parlez de la mitzvah quand on ne peut pas la faire.
Ben, on est assis dans un endroit où il y a beaucoup de lumière. Donc, les enfants peuvent voir les lumières dans les
Oui,
cieux.
bien sûr.
Les jeunes en face, les vieux en face,
Quand on était dans des villes juives, ouais.
quand on vient de les bébés, de toute façon, on va dans la maison. C'est correspond ça, parce qu'en Ukraine, ils allument soit à l'extérieur, soit ils mettent devant la fenêtre, la chanukah, mais ils sont à l'intérieur.
Parce que l'extérieur, le problème dans la porte, très souvent les gens, c'est un immeuble, vous avez un immeuble 40 étages. Il n'y a pas la place pour tout le monde de mettre à la porte. Donc les gens mettent. Et là même, ils ont, ça n'a même pas besoin de mettre à la fenêtre parce que au-dessus de 20, au-dessus de 10 mètres, ça n'a plus de sens de mettre.
Moi, j'ai vu des gens qui allumaient et à l'extérieur et à l'intérieur.
Oui.
Donc, c'est pas, c'est pas.